VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Blocage dans le dialogue politique au Togo. Les négociations ont commencé le 23 mars dernier sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo achoppent sur des positions irréconciliables. Notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, nous en dit plus.
De 47 amendements pour le retour à la constitution originelle de 1992, la coalition propose ne retenir que 5 amendements pour faire évoluer les discussions. Les articles concernent sont relatifs aux conditions d'éligibilité du président de la République, aux modes de scrutin, aux prérogatives et modes de désignation du Premier ministre, à la recomposition de la Cour constitutionnelle et à la limitation de mandat présidentiel. Sur ce dernier point, la coalition se dit ferme. Nous offrons la possibilité à Faure Gnassingbé de sortir par la grande porte, a insisté Brigitte Adiamagbo, la coordinatrice de la coalition. Si Faure Gnassingbé refuse, ajoute-t-elle, le peuple restera dans la rue jusqu'à ce qu'il ne parte. Redoutant l'échec du dialogue, la coalition propose une transition pour préparer des élections générales en 2020. Notons que lors des discussions le 23 mars dernier, le gouvernement togolais a accepté de suspendre le processus électoral. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le second tour de la présidentielle en Sierra Leone, prévu aujourd'hui, a été repoussé au samedi 31 mars, a annoncé hier la commission électorale nationale. Le second tour s'annonce très indécis entre le candidat du pouvoir, Samora Camara, homme lige du président sortant Ernest Bai Koroma, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Madabiou. Près de 600 partis et 94 groupements politiques officiellement reconnus en République démocratique du Congo. Leur liste a été transmise hier par le ministère de l'Intérieur à la Commission électorale nationale indépendante en vue des élections. Étape importante du processus électoral. Concernant le dédoublement de certains partis politiques, notamment de l'UDPS, le ministère de l'Intérieur appelle la justice à s'en occuper. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM. Notre station partenaire Kinshasa.
Une liste inclusive qui a repris tout le monde a indiqué le ministre de l'Intérieur Henri Movasakani. Ce qui a été fait enveloppe l'ensemble de la scène politique de sorte que personne ne soit déjà écarté du fait des problèmes qu'il aurait eu au sein de son parti politique. Quitte à ce que les autres instances jouent leur partition, a-t-il souligné, invitant les cours et tribunaux à se pencher sur les dissensions qui persistent dans certains partis politiques. Le cas de l'UDPS qui a vu depuis la mort de son emblématique leader Étienne Tshisekedi, trois courants revendiquaient la paternité du parti. Celui de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala qui l'a élu président en décembre dernier, celui que dirige Jean-Marc Kabounde, secrétaire général à la mort de Tshisekedi, qui se prépare à tenir dans quelques jours son congrès avec Félix Tshisekedi parmi les candidats pour succéder à son père, et celui de Valentin Moubaké, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. C'est désormais à la justice de les départager. Kinshasa, Thierry Kabundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Égypte pour la deuxième journée d'un scrutin présidentiel de 3 jours que le candidat sortant Abdel Fattah al-Sissi est sûr de remporter faute de compétition véritable. Monsieur Sissi, élu président en 2014, a pour seul adversaire Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan du régime actuel. Face à l'absence de compétition réelle, le taux de participation est pour le pouvoir l'unique enjeu de ce scrutin. Le Parlement tunisien a voté tard hier soir contre une prolongation du mandat de l'instance de justice transitionnelle chargée de rendre justice aux victimes de la dictature et des violations des droits de l'homme en Tunisie. Après 2 séances particulièrement houleuses, samedi et lundi, les députés ont rejeté la prolongation du mandat de l'instance Vérité et Dignité, IVD, qui devait initialement se terminer le 31 mai. Par 68 voix contre, 2 abstentions et 0 voix pour. De nombreux députés, dont ceux du parti islamiste Ennahda, ont quitté l'hémicycle avant le vote qu'ils estiment entaché d'irrégularité. Plusieurs partis contestent ce vote et l'IVD même estime ne pas avoir besoin de l'aval de l'Assemblée pour poursuivre son travail. Le dernier fief rebelle aux portes de la capitale syrienne continue de se vider de ses combattants après le départ d'un convoi nocturne transportant des milliers de personnes hors de la Ghouta. Les évacuations se poursuivaient ce mardi sous le parrainage de la Russie. Pour la seule nuit de lundi à mardi, quelques 6749 personnes, dont un quart de combattants, ont quitté la poche sud de la Ghouta tenue par la faction islamiste Faylaq al-Rahman. Il s'agit du convoi le plus important en effectif à quitter à ce jour la Ghouta. Les opérations doivent se poursuivre aujourd'hui, Faylaq al-Rahman ayant assuré qu'au total, quelques 30 000 hommes devraient être évacués. Au moins 7 employés de journaux ont été enlevés par des hommes armés à Aden, grande ville du sud du Yémen, a rapporté le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, en ce qui étant des risques encourus par les médias dans ce pays. Dans un communiqué publié hier à New York, le CPJ a indiqué que les assaillants avaient fait irruption vendredi dans les locaux d'une fondation où sont imprimés le quotidien Akhbar Al-Youm et l'hebdomadaire Al-Soumou avant d'enlever au moins 7 personnes. Au moins 15 journalistes ont été tués au Yémen depuis 2015. Des militants indépendantistes ont bloqué aujourd'hui 2 routes en Catalogne, protestant contre l'arrestation dimanche en Allemagne de l'ex-président régional Carles Puigdemont et l'incarcération d'autres leaders indépendantistes en Espagne. Les manifestants ont annoncé hier le lancement d'un cycle de protestations permanentes. L'ex-président Carles Puigdemont, poursuivi pour rébellion et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, a été arrêté dimanche en Allemagne, puis écroué en attendant que la justice allemande décide s'il doit être extradé vers l'Espagne. À Washington, il est 7h06.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La presse russe estimait ce mardi que les expulsions coordonnées de diplomates russes par une vingtaine de pays après l'empoisonnement d'un ex-agent russe plongeaient les relations entre Moscou et les Occidentaux dans une nouvelle période de guerre froide. 23 pays, dont 16 membres de l'Union européenne, ont décidé d'expulser au moins 116 diplomates russes dans le cadre de représailles du camp occidental après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal sur le sol britannique le 4 mars, perpétré selon Londres par Moscou. Washington mène de loin le mouvement avec l'expulsion de 60 diplomates russes considérés comme des agents de renseignement et la fermeture du consulat de Russie à Seattle sur la côte ouest. Moscou a aussitôt dénoncé un geste provocateur et promis de riposter à son tour. La Russie n'a jamais eu et n'a rien à voir avec cette affaire, a répété le Kremlin. 41 enfants sont morts dans l'incendie qui a tué au moins 64 personnes dimanche dans un centre commercial de Kemerovo en Sibérie. Le bilan officiel était mardi de 64 morts, mais celui-ci n'est pas encore définitif. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé une négligence criminelle alors que les autorités attribuent cet incendie à de nombreuses violations des règles de sécurité. Les enquêteurs et les témoins ont évoqué notamment des issues de secours fermées à clé et une absence totale d'alerte pour avertir les clients du centre commercial du début de l'incendie. Et scandale autour de la protection des données de ses utilisateurs, Facebook ne parvient pas à enrayer sa chute à Wall Street malgré de nouvelles excuses. Claire Morin-Gibou.
L'annonce d'une enquête de la Federal Trade Commission a fait plonger le titre Facebook à la bourse de moins 5%. Le régulateur américain du commerce veut examiner les pratiques du groupe en matière de données privées. En fin d'après-midi, le titre avait encore reculé de 2,70%. La FTC veut notamment savoir si Facebook a violé l'accord amiable qu'ils ont signé en 2011. Le réseau social était alors accusé d'avoir trompé les consommateurs sur leurs données soi-disant confidentielles, alors que Facebook les avait partagées de façon répétée. La semaine dernière, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a expliqué avoir, en 2014, modifié entièrement la plateforme pour limiter de façon très importante la quantité de données auxquelles pouvaient accéder des applications tierces. Depuis la révélation de l'utilisation par la firme britannique Cambridge Analytica des données privées de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques, le réseau social a perdu environ 90 milliards de dollars de capitalisation boursière.
Le sénateur républicain John McCain va publier en mai un nouveau livre au ton franc sur la politique américaine ces dernières années, notamment la campagne électorale de 2016 qui a vu triompher Donald Trump. Le livre intitulé « The Restless Wave », les flots qui ne se calment pas, chez le grand éditeur américain Simon & Schuster, prendra le relais du livre autobiographique familial publié avant sa candidature présidentielle malheureuse de 2008 et couvrira jusqu'aux événements récents de l'actualité américaine et internationale, notamment la Russie. Prochaines infos dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francis. Bon après-midi à tous. Jean-Roger Billon à ce micro, en direct de Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.